Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Bunker, le format du Collimateur consacré à des films ou des séries qui touchent à la guerre ou au monde militaire, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pierre Aski, journaliste, chroniqueur dans la matinale de France Inter, où vous tenez la chronique géopolitique du 7-9, défricheur aussi de perles cinématographiques chinoises comme on va s'en apercevoir, ce qui est peut-être lié au fait que vous avez été pendant plusieurs années correspondant du journal Libération en Chine au début des années 2000. Donc bonjour Pierre, merci.
Bonjour Alexandre.
Merci beaucoup d'être là et bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Alors je l'ai dit, les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes déjà apparu dans ce format du podcast, mais à l'époque c'était pendant le premier confinement, on faisait ça uniquement à distance. Mais vous aviez pointé mon attention sur un film dont j'avais presque pas entendu parler à l'époque et dont vous m'indiquiez que c'était le plus gros succès de l'histoire du cinéma chinois. Je veux bien évidemment parler du splendide Wolf Warrior 2 de Jackie Wu, qui n'était pas facile à trouver et valait en même temps tellement la peine, puisque j'invite les auditeurs à aller réécouter cet épisode, mais c'est vraiment un film très drôle, même si c'est parfois à son insu, et assez épatant dans ce qu'il dit de la manière dont la Chine perçoit son rôle sur la scène mondiale, notamment sa présence sur d'autres continents et en Afrique. Et je vais dire que j'ai l'impression que c'est un film qui est devenu nettement plus connu depuis qu'on a fait cette émission, notamment parce que c'est même devenu une sorte de périphrase pour qualifier l'attitude d'un certain nombre de diplomates chinois, la diplomatie des Wolf Warriors, des loups guerriers. Et là donc, je peux dire, on s'est croisé un jour un peu par hasard autour d'une émission sur l'Ukraine, et vous m'avez indiqué qu'il y avait un nouveau plus gros film chinois de tous les temps, à la fois par le budget et par les recettes, et dont j'avais cette fois absolument pas entendu parler. C'est donc La bataille du lac Shangjin, sorti en 2021, encore avec l'inénarrable Jackie Wu dans le rôle vedette, et qui raconte un épisode de la guerre de Corée, une défaite américaine face aux forces de la Chine communiste, venu soutenir donc les armées de Corée du Nord. Donc ça, je viens de faire un résumé très rapide et très grossier, mais on va pouvoir entrer dans le détail. Mais dites-nous donc d'abord, Pierre, comment ce film est entré en quelque sorte dans votre viseur et ce que vous y avez trouvé ?
Alors d'abord parce qu'il est le nouveau record absolu du box-office chinois.
Et 200 millions de dollars de budget, 800 millions de dollars de recettes.
Oui, on a dépassé le milliard maintenant. Et d'ailleurs, ils ont fait un numéro 2 qui a moins de succès, mais qui montre que ce film a marqué les esprits. Mais surtout, il y avait évidemment quelque chose de très significatif à représenter dans un blockbuster absolu, la confrontation, la seule vraie confrontation directe entre les armées chinoises et américaines pendant cet épisode de la guerre de Corée, à un moment où s'installe une nouvelle guerre froide, un nouveau climat de confrontation entre la Chine et les États-Unis. Donc il y avait un message pas du tout subliminal, mais au contraire tout à fait explicite, de préparation de l'opinion, quoi, de remettre au goût du jour cet épisode.
On peut dire que le film a été produit à l'occasion du 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois, donc en 2019. Donc il y a un truc, quoi, il y a un message, une commémoration. Ah, vous le dites, c'est pas subliminal du tout, c'est très explicite qu'on fait l'histoire de la Chine communiste et on insiste sur certains épisodes, en l'occurrence là, la fois où ils ont mis quand même une tannée aux Américains, même si on va y revenir, c'est un peu plus délicat que ça.
C'est un peu plus compliqué que ça. Oui. Mais c'est surtout, effectivement, en Chine, rien n'est laissé au hasard dans ce genre de programmation cinématographique. Effectivement, c'est un anniversaire, et pour les 100 ans du Parti communiste chinois, on glorifie un certain nombre d'épisodes et qu'on veut mettre en avant parce qu'ils sont pertinents aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, c'est pertinent aujourd'hui aujourd'hui rappeler au public chinois que la relation avec les États-Unis, elle a pu être brutale et pas nécessairement au désavantage de la Chine. Et moi, il se trouve que j'avais vécu, quand j'étais correspondant à Pékin, le deuxième épisode, mais qui est évidemment d'une autre nature, mais la seule fois après la guerre de Corée, où il y a eu une confrontation entre soldats chinois et américains. C'est un incident aérien qui s'est déroulé en 2001, début 2001, je crois que c'est au printemps 2001, lorsque un avion de chasse chinois est venu chatouiller un peu un avion espion américain au large dans la mer de Chine méridionale. Et leurs ailes se sont touchées, l'avion chinois est tombé à l'eau et le pilote est mort. Et c'est, pour tous les Chinois, c'était la guerre de Corée qui recommençait, c'est-à-dire on avait de nouveau un mort chinois face à des Américains. Et ça a été quelque chose d'assez marquant, et à ce moment-là, on a le souvenir de la guerre de Corée est devenu très, très prégnant. Et en plus, moi je me souviens la guerre de Corée, c'est quelque chose qui a disparu dans notre mémoire collective, que ce soit celle des Américains d'ailleurs, parce que la guerre du Vietnam a pris le dessus dans la mémoire des guerres asiatiques. Et nous, je pense qu'il y a très peu de Français qui savent qu'il y a un bataillon français qui a participé dans le cadre des Nations Unies à cette guerre. Il y a un monument d'ailleurs à Paris autour de cette guerre. Mais c'est un épisode qui a disparu. En Chine, c'est pas le cas. Parce que c'est la plus grande guerre à laquelle la Chine est participée après la création de la République populaire en 1949. Et donc le souvenir est très, très fort. Et moi, je me souviens, il y a un musée de la guerre, un musée militaire à Pékin qui est un endroit absolument gigantesque et dans lequel il y a une salle consacrée à la guerre de Corée, dans laquelle il y a une carte au sol avec les reliefs en plomb et sur laquelle on peut monter. Et je me souviens, c'était il y a 20 ans maintenant, je pense qu'ils ont disparu, mais il y avait les anciens combattants qui venaient avec leurs enfants et petits-enfants, qui montaient sur la carte et qui expliquaient, voilà, on était sur la colline ici, on est descendu là, on les a attaqués là, etc. C'était quelque chose qu'on ne peut pas imaginer et qui marque les mémoires. Je pense que ces enfants, dont les grands-parents leur ont expliqué debout sur la carte, les détails de la guerre de Corée ont été marqués par ces récits.
Tout à fait, c'est fascinant, effectivement, c'est une guerre qu'on a complètement oubliée en France, en Europe. En même temps, il y a des choses qu'on ne comprend pas, par exemple l'importance des Marines aux États-Unis et la mythologie des Marines est entièrement dépendante de la guerre de Corée et de ce qu'ils y ont fait. Enfin, il y a tout un tas sans comprendre la guerre de Corée, il y a tout un tas de pièces manquantes dans l'histoire militaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Et je peux dire, je lisais des choses à ce sujet-là pour préparer l'émission, c'est vraiment fascinant, j'en ferai une émission un jour, parce que vraiment, on n'en parle pas. Et d'un point de vue technique, technologique, opérationnel, tactique, à tous les points de vue, c'est un conflit absolument fascinant.
Sans compter qu'il y a aussi le personnage de MacArthur, le héros de la guerre du Pacifique, de la Seconde Guerre mondiale, qui dirige toujours les forces américaines en Asie à ce moment-là, basées à Tokyo, et qui fait à la fois un coup de génie dans ce débarquement qui remet les Américains dans cette guerre et qui ensuite commet une erreur absolument colossale en pensant que les Chinois ne vont pas intervenir. Donc on rejoint l'épisode que raconte le film.
Non, mais justement, précisément, parce que tout le monde l'a un peu oublié, moi le premier, il faut peut-être dire un mot des grandes phases. Donc on peut dire, globalement, c'est une histoire qui rappelle un peu celle de l'Allemagne, c'est-à-dire il y a des espèces de zones d'occupation après la défaite japonaise, qui progressivement la situation se dégrade. Et voilà, en 1949, la Corée du Nord envahit.
Il y a d'abord la création de deux États, parce que le parallèle avec l'Allemagne est total, c'est-à-dire qu'il y a à la fois deux zones d'occupation, l'une américaine, l'autre soviétique, qui deviennent deux États de part et d'autre du 38e parallèle. Et donc en 1949, effectivement, il y a une sorte d'inéluctabilité de la guerre.
Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est une guerre de vagues, c'est une guerre de déferlantes, c'est-à-dire donc c'est la Corée du Nord de Kim Il-sung, donc petit grand-père de Kim Jong-un actuel, qui envahit complètement, qui repousse tout le monde, et les Sud-Coréens et les Américains qui sont avec eux ne tiennent plus que Busan dans le sud, tout le sud-est de l'île. Puis ensuite, les Américains débarquent à Incheon, donc beaucoup plus au nord, c'est l'idée de MacArthur dont vous disiez. Et là, c'est la vague qui remonte au contraire complètement tout au nord de la Corée. Et c'est à ce moment-là, quand les Coréens du Nord sont complètement sur le reculoir et on se demande si les Américains vont pas établir, unifier la Corée par la force, et c'était un peu leur intention, c'est là qu'a lieu cet épisode, donc de la bataille du lac Changjin, qui est en fait l'épisode, l'événement, la bataille, mais qui renvoie au fait que la Chine s'investit dans ce conflit et se met à envoyer ces masses d'hommes et de matériel pour soutenir les Nord-Coréens.
Parce que ce qui est, si on prend, je ne sais pas si tout le monde a la carte en tête, mais ça vaut le coup de la regarder, mais ce lac, qui est un lac artificiel autour d'un barrage, n'est pas très éloigné de la frontière chinoise. Et en fait, les Américains sont sur le point de terminer la conquête de tout le Nord. Donc ils ont fait une avancée, ils ont pris Pyongyang, la capitale du Nord, et ils ont continué vers le fleuve Yalu, qui est la frontière, la délimitation avec la Chine. Et c'est là que les Chinois décident d'intervenir, pas officiellement, puisqu'on crée une force de volontaires, soi-disant chinois, qui interviennent sans que les Américains... Alors, un, sans que les Américains... ne l'imagine, puisque MacArthur pense que les Chinois qui sont au pouvoir, il faut rappeler que Mao est au pouvoir depuis quelques mois seulement, et MacArthur pense que les Chinois sont exsangues, qui n'ont pas les moyens de mener une campagne militaire contre la puissance technologique et la supériorité des Américains. Donc il y a ce côté mépris presque vis-à-vis des Chinois. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de déclaration de guerre, en l'occurrence. Il y a des milliers, des milliers et des milliers de soldats chinois qui traversent la frontière. Et tous volontaires, absolument, est quand même dirigé. Parce que dans les petites choses intéressantes de ce film, il y a le chef de ce corps expéditionnaire chinois, Peng Dehai, qui a été purgé par la suite. Parce qu'il s'en est pris à Mao. C'est un personnage très intéressant. C'est un compagnon de la longue marche de Mao. C'est un des grands seigneurs de la conquête communiste de la Chine. C'est lui que Mao nomme pour aller, donc un homme de confiance qu'il envoie en Corée. Mais par la suite, Peng Dehai va se retourner contre Mao après la tragédie du grand bond en avant, grande famine dans les années 50. Et il va critiquer Mao et il sera purgé, réhabilité par la suite. Mais malgré tout, cet homme a un destin incroyable parce que en 89, lorsque les étudiants occupaient la place Tiananmen, il y a 5 anciens généraux à la retraite qui ont fait une lettre au bureau politique pour demander que l'armée n'intervienne pas. Et il faisait partie de ces 5 généraux. Donc c'est un homme qui a un destin sur une durée exceptionnelle, avec des hauts et des bas, et malgré tout une position morale assez forte, puisqu'à deux moments, il s'est opposé à la direction du parti sur des choses assez fondamentales, le grand bond en avant et le massacre de Tiananmen. Donc ça, c'est la parenthèse. Et donc c'est lui qui dirige ce corps expéditionnaire.
Mais alors là, on a donc l'histoire, en quelque sorte, c'est en tout cas le contexte géopolitique de l'époque. Maintenant, le film, parlons-en. Alors, on peut dire, c'est un film qui a coûté très cher, j'ai dit, 200 millions de dollars, plus gros budget de l'histoire du cinéma chinois. Ça se voit. Enfin, c'est-à-dire, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes d'action extrêmement impressionnantes, mais en même temps, c'est fait de manière un peu bizarre. Enfin, ils n'ont pas la même grammaire des effets spéciaux et des explosions que les blockbusters hollywoodiens, donc on voit que ça a coûté de l'argent, et en même temps, c'est un peu bizarre, parce que comme quand on regarde un film de Bollywood, on a toujours un petit temps d'adaptation. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette représentation, disons, de la guerre dans ce film?
Alors, il y a des choses très intéressantes, parce que il y a le fond et la forme. Sur le fond, il y a beaucoup à dire sur ce film. D'abord, on ne comprend pas qui a déclenché cette guerre. C'est quand même extraordinaire. On rentre dans une bataille absolument colossale, mais on ne sait pas pourquoi il y a cette guerre, qui l'a démarrée. On comprend que ce sont les Américains, les agresseurs, les méchants, contre lesquels Mao décide d'intervenir. On voit Mao à un moment, puisque au début, c'est lui qui prend la décision. Et il est très inquiet parce que les Américains approchent de la frontière chinoise et ils décident d'intervenir. La réalité est plus compliquée que ça, et ça n'est pas raconté du tout par le film. Mais depuis, il y a eu beaucoup d'archives qui ont révélé que le démarrage de cette guerre, c'est Kim Il-sung, donc le grand-père du grand leader actuel, pense qu'il y a une opportunité de conquérir le Sud. Parce que les Américains ont publié, après la Seconde Guerre mondiale, un document stratégique sur leurs intérêts dans le monde. Et il n'y a pas la Corée, il n'y a pas la péninsule coréenne. Et donc Kim Il-sung se dit, le Sud est faible, le Nord était effectivement plus fort à tout point de vue que le Sud, et les Américains ne s'y intéressent pas. Donc allons-y. Il convainc Mao, et Mao a une dette à son égard, parce que les Nord-Coréens ont participé, ont envoyé des hommes en renfort pour aider Mao à l'emporter. Et ensemble, ils vont convaincre Staline, parce qu'on ne fait rien, on ne déclenche pas une guerre sans l'accord, sans le feu vert de Staline. Staline se fait un peu tirer les oreilles, il accepte, et il, ce qui contredit d'ailleurs la vision très guerre froide de l'époque, qui est de dire la Corée, c'est le premier pas de la conquête du monde par Staline. Staline a dû être convaincu par Kim Il-sung et par Mao. Mais Staline dit à Mao, OK, vous y allez, mais si ça tourne mal, tu y vas. Et c'est là que voilà, tout ça n'apparaît pas dans le film, qui a un contexte historique. Les Soviétiques n'existent pas dans le film, ce qui est logique de la part d'un film chinois fait aujourd'hui.
Mais c'est là que c'est intéressant, c'est là que le message est très apparent, c'est qu'effectivement, on voit c'est des Américains contre des Chinois. Mais on disait il y a 5 minutes hors micro, en fait, il n'y a pas un Coréen dans tout ce film. C'est-à-dire ni les Coréens du Nord qui ont quand même déclenché la guerre, ni les Coréens du Sud qui faisaient complètement partie des armées dirigées, disons, par les Américains. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas qu'eux, il y avait aussi des Britanniques, il y avait aussi toutes sortes de...
C'était une force des Nations Unies, ce qui n'est pas très clair dans le film, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que c'est effectivement l'armée américaine. De fait, c'était l'armée américaine, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait les Australiens, il y avait beaucoup d'autres forces.
Mais donc, on invisibilise toutes ces autres nationalités, et il ne reste plus que les Chinois et les Américains. Et au demeurant, on peut dire que sur l'époque, ce n'était pas particulièrement évident, parce qu'au début, les Chinois n'ont pas particulièrement assumé qu'ils intervenaient, ils se faisaient plus ou moins passer pour des Nord-Coréens aussi. Donc là, il y a une réécriture pour dire que c'était déjà la grande opposition sino-américaine, que sur le moment, ça n'était, en tout cas, c'était clair pour personne que c'était ça.
Oui, mais d'une certaine manière, l'image que ça renvoie, c'est l'idée que la Corée n'est qu'un théâtre sur lequel se déroule le grand affrontement historique entre la puissance chinoise et la puissance américaine, et que la Corée importe peu. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de Coréens. Donc ça, c'est sur la toile de fond générale. Après, il y a des choses que je trouve assez étonnantes. Par exemple, il y a une controverse historique assez intéressante sur le degré de préparation des troupes chinoises, parce que il faut dire qu'on est en hiver, donc ça démarre en novembre, ça se termine, il y a 17 jours de combat à cheval entre novembre et décembre. C'est un hiver particulièrement rude, on est très très au nord, et il y a des températures qui descendent à moins 40 jusqu'à moins 45, donc c'est des conditions particulières. Et on sait aujourd'hui que les troupes chinoises et les volontaires chinois qui devaient partir en Corée ont été rassemblés dans le nord de la Chine, dans l'ancienne Mandchourie, et devaient se préparer pour intervenir. Et Mao, voyant l'avancée des troupes américaines, a précipité le mouvement et les a envoyées plus vite que prévu. Ce qui fait qu'elles n'avaient pas cet équipement spécial pour l'hiver, ces tenues ouatées comme savent les faire les Chinois qui protègent du grand froid. Et il y a une scène dans le film qui évoque ça, on voit le départ des troupes en train, et ils n'ont pas eu le temps de charger tous les vêtements qui avaient été apportés, et on voit les gens qui enlèvent leur manteau pour le donner aux soldats, et des ballots de vêtements qui sont jetés dans les wagons au moment où le train démarre. Donc cet épisode est évoqué, mais il n'est pas pris en compte par la suite comme un élément majeur, alors que les troupes chinoises ont énormément souffert du froid, les Américains aussi, par définition, mais les troupes chinoises étaient moins bien équipées, moins bien préparées, et elles ont perdu des milliers d'hommes avant même d'entrer au combat. On estime qu'il y a jusqu'à 50% des effectifs qui ont été envoyés en Corée qui n'étaient pas en état de combattre au moment où il y a eu la bataille du lac. Donc,
et 50%, c'est, ça veut dire plusieurs dizaines de milliers d'hommes, ça veut dire 50 000 hommes. Quoi.
Parce qu'on parle, voilà, on dit qu'il y avait 60 000 Chinois engagés dans la bataille, ça veut dire qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers qui étaient en incapacité de combattre par le froid et aussi des difficultés de logistique, d'approvisionnement en nourriture, ce qui fait que c'était assez faible. Et la deuxième chose, parce que moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps un documentaire américain qui porte le même titre, La bataille du lac Changjin, qui a été fait en 2016, donc avant ce film, et qui est un documentaire à base de témoignages d'anciens combattants de la guerre de Corée et d'images d'archives. Documentaire absolument formidable et qui a eu un gros retentissement aux États-Unis parce que, comme on le disait au début, cette guerre est oubliée là-bas aussi. Et il y a un historien militaire américain au début du documentaire qui dit c'est sans doute la bataille la plus dure qu'a eu à mener l'armée américaine au XXe siècle. C'est quand même quelque chose. Et ce que racontent les anciens combattants...
Parce qu'on peut juste replacer peut-être sur le plan tactique, c'est en gros, c'est un corps d'armée américain qui est coupé du reste et qui, du coup, se retrouve pris en embuscade de tous les côtés par les Chinois... qui, on va pas entrer dans le détail tactique, mais qui ont une stratégie d'isoler progressivement les Américains et d'éliminer unité par unité. Et en gros, ils se retrouvent à essayer de faire une retraite et d'essayer de rejoindre le gros des troupes américaines. Mais donc, en passant par des vallées, par des défilés, ils se prennent des embuscades en permanence. C'est vraiment des...
C'est la retraite de Russie, quoi. Ouais. par un froid absolument polaire. Mais dans ce documentaire, les anciens combattants... frappés dans leurs souvenirs par le manque d'équipement des Chinois. Ils racontent que seul le premier rang des Chinois avait des armes et que le deuxième rang prenait les armes des premiers qui étaient tombés et que derrière il y avait ces tactiques bien connues des commissaires politiques qui tiraient sur ceux qui voulaient s'enfuir.
Ça c'est un peu montré dans le film d'ailleurs, ils envoient au début un jeune sans cartouches en disant bah tu prendras les cartouches de celui qui sera tombé
exactement.
Devant toi.
Mais quand même ils ont pas mal d'armes et des mortiers voilà. Il y a quand même du matériel que visiblement ils n'avaient pas et ils ont misé sur le nombre. Et Mao a toujours été fasciné par cette question du nombre. Vous savez, il y a cette fameuse citation qu'on lui attribue, je ne sais pas si elle est vraie, mais où il disait si demain on a une guerre nucléaire avec l'Union soviétique, puisque c'était l'ennemi de l'époque, nous resterons malgré tout le pays le plus peuplé au monde après cette guerre nucléaire. Donc il a toujours pensé en nombre, et d'ailleurs c'est un basculement total qu'a fait la Chine depuis 10-15 ans, qui est de miser sur la qualité de son matériel, la technologie, plutôt que sur le nombre dans sa vision stratégique. Mais dans cette bataille, il est clair que l'avantage numéro un des Chinois était, un, la surprise, puisque les Américains ne les ont pas vus venir en nombre à ce point, et deuxièmement, le nombre, puisqu'ils les ont pris de tous les côtés à la fois. Il y a quelques scènes où on voit effectivement quand les Américains réalisent qu'ils sont attaqués de tous les côtés, ils ont un choc.
Mais c'est vrai, alors j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que justement le film ne montre pas ça. C'est-à-dire, il y a un souci, il montre quand même une sorte de supériorité technique des Américains, qui est relativement bien connue, même si c'était...
Et ils ont l'aviation. C'est ils ont, le grand avantage des Américains, c'est l'aviation.
Ils ont l'aviation. Mais il y a quand même un attachement à ne pas montrer l'armée chinoise de l'époque comme des va-nu-pieds non plus. Voilà. Mais en même temps, ils ne montrent jamais le surnombre absolu des Chinois. On voit toujours des petits groupes de Chinois, on a l'impression que c'est un petit escadron, enfin que c'est 5 escadrons qui prennent une énorme base américaine, alors qu'en fait, c'est littéralement des marées humaines qui se jettent sur les Américains. Et du coup, il y a une sorte de... Et c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils ont effectivement abandonné cette espèce de philosophie que la force est dans le nombre et qu'on peut glorifier le nombre. En fait, là, non, il glorifie plutôt l'astuce ou le courage, en l'occurrence.
Et puis, il y a ce côté qui est emprunté à la cinématographie américaine, qui est de valoriser des héros, des personnages. On construit quelques personnages types, et notamment un jeune officier qui a son jeune frère qui est passé par la porte de derrière pour rejoindre l'unité alors que le frère voulait le protéger. Il y a le vieux camarade avec lequel on a fait la longue marche. Il y a surtout
le commissaire politique.
Il y a le commissaire politique et il y a cette unité.
C'est la première fois que je voyais un commissaire politique représenté positivement, parce que ça a l'air d'être un type hyper sympa. Je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y aurait peut-être des sympas quand même.
Il n'y a pas de raison que les commissaires politiques ne soient pas sympathiques. Et il y a cette unité d'élite dont on numérote on est le numéro 672, etc. Mais le numéro on continue à compter les morts comme étant parmi les effectifs. C'est intéressant cette culture d'unité, de groupe, qui je trouve est très très peu présente dans les films chinois traditionnellement.
Alors, c'est très intéressant parce que je me disais en le voyant qu'ils ont un truc sur, ils donnent énormément de détails tactiques sur le 27e corps d'armée, etc. Alors que, bon, on s'en fiche, en fait, on n'y comprend rien, enfin, on les mélange tous au bout d'un moment. Oui. Et je me suis dit qu'il y avait probablement un truc de mémoire de ces corps d'armée-là qui doit probablement avoir un truc mythifié, et ça devait être important de représenter, parce que parfois, c'est des trucs de 30 secondes où ils nous disent ce corps d'armée-là va faire ça, ça et ça. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une sorte de patrimoine et de fierté des opérations à ce moment-là, et que donc il faut continuer à les nommer aujourd'hui, même si c'est du cinéma.
Absolument. Et... Alors, il y a une chose qui est bien montrée dans le film, c'est justement cette inégalité technologique, puisque les Chinois ont beaucoup de mal à communiquer entre eux. Leurs moyens sont assez rudimentaires, alors que les Américains ont des systèmes radio, etc., qui leur permettent d'être coordonnés. Et l'aviation, dont on voit dans le film qu'elle a un rôle majeur pour essayer de contrer les attaques chinoises, et qui, dans la réalité, a permis d'autoriser cette retraite et d'éviter la catastrophe absolue qui aurait été l'encerclement et la destruction de toute cette force américaine. Et ce que ne montre pas, et ça aurait pu être montré, et c'est étonnant, c'est l'usage du napalm, parce que l'usage du napalm a été extrêmement important pour désencercler les forces américaines. J'étais surpris de ne pas voir ce détail dans le film.
Bon, on le voit un peu, mais c'est pas identifié dans une appel, mais autour notamment d'un personnage qui est tout à fait intéressant, c'est il y a la représentation qui est historiquement vraie d'un des fils de Mao.
Oui, absolument.
Qui meurt. Alors, c'est la scène très émouvante avec Mao qui laisse partir son fils auprès de Peng, donc le chef de l'armée chinoise. Et c'est intéressant parce qu'on représente la mort du fils de Mao comme un truc complètement héroïque où il sauve les plans sous un bombardement au napalm, il sauve les cartes de bataille, etc. En fait, quand on creuse un peu, il semblerait que ce soit une histoire un peu moins glorieuse, que ce soit plutôt lui qui ait provoqué le bombardement parce qu'il aurait fait la cuisine au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'il fallait placer le petit moment Mao. Ça montre quand même la continuité du Parti communiste encore et toujours.
Ah, complètement. Je pense que l'image de Mao est extrêmement positive dans ce film, parce qu'on voit le leader qui prend des décisions pensées, qui est au début quand il décide d'intervenir et qu'il convoque Peng Dehai, il y a ce moment, voilà, le grand leader qui sait tout et qui...
C'est quasiment un prophète à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Il faut faire cette guerre maintenant pour pas avoir à la faire dans 20 ans, etc.
Oui, il demande pas l'avis de son général, il demande à son général s'il le soutient ou pas, ce qui est pas tout à fait pareil. Et puis, il y a le grand leader qui est prêt à sacrifier son fils parce, pour une cause plus grande que lui. Et voilà, c'est, donc on voit bien que, à quel point la continuité avec Mao est un élément essentiel du régime actuel. Bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. Lorsque Mao est mort en 76, il y a eu un moment où le régime a été tenté d'une démaoïsation comme il y a eu la déstalinisation en URSS. Et Deng Xiaoping a tranché avec cette idée que le bilan de Mao était 70% positif, 30% négatif. Ce qui était très commode parce que dans les 30%, on pouvait mettre des abominations comme le grand bond en avant, etc. Mais on gardait l'image du grand leader et ça assurait la continuité de la légitimité du parti. Et jusqu'à aujourd'hui, comme ce film le montre amplement.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la représentation des Américains. Alors, moi, j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant en fait, de voir un film qui montre à gros budget. Un film de guerre à gros budget qui montre des Américains très méchants. Parce qu'en fait, quand les films de guerre sont à très gros budget, en général, ils viennent d'Hollywood, donc les Américains ont toujours le beau rôle. Et là, c'est pas du tout ça. C'est un vrai bon film, avec des moyens, avec des explosions, avec des images qui sont parfois extrêmement belles, extrêmement travaillées, etc. Mais c'est juste qu'il y a des Américains qui sont racistes, paresseux, froussards, etc., qui n'ont absolument aucune qualité. Et je sais pas, par une sorte de réflexe lointain, je me dis toujours, bon, ça va se retourner, il va y avoir à un moment, ils vont être valorisés quand même. Et pas du tout, c'est vraiment une image lamentable de l'armée américaine qui est à la fois raciste et inadaptée. Et je trouvais ça, je trouve ça intéressant de voir ça pour une fois à l'écran.
Mais ce qui est très intéressant, effectivement, et je pense que c'est une leçon presque universelle, c'est de regarder des histoires que nous connaissons avec le regard de l'autre, et en l'occurrence des gens qui sont en général dans les films américains exactement ce que vous disiez, le paresseux, le lâche, le froussard, etc. Et là, les rôles sont complètement inversés, mais c'était déjà le cas avec Wolf Warrior. On avait le Rambo chinois et l'inversion totale de tous les codes. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi quelque chose que nous perdons de vue et peut-être qu'avec cette guerre d'Ukraine, il faut aussi ne pas l'oublier, c'est que il y a les mêmes sentiments et les mêmes qualités et défauts des deux côtés. Et moi, je me souviens, ça m'a fait penser à un roman. J'étais allé au Vietnam il y a une vingtaine d'années, et dans la rue, on vendait les romans photocopiés. Et j'étais tombé sur un roman en français, écrit par un soldat nord-vietnamien, et qui racontait sa guerre du Vietnam contre les Américains, mais du point de vue d'un soldat nord-vietnamien, avec ce que pourrait écrire un ancien combattant américain, c'est-à-dire je pars de chez moi, j'embrasse ma femme et mes enfants, je suis dans la boue, sous la pluie, et je me demande ce que je fais là, et puis il y a le moment de la bataille, il y a la fraternité d'armes, etc. Bref, quelque chose dont on n'a pas nécessairement l'idée quand on imagine l'ennemi, parce que l'ennemi est nécessairement déshumanisé et le cinéma n'a pas beaucoup aidé à ça. Et donc là, on a la même chose, c'est-à-dire le regard du soldat chinois ou de l'officier chinois sur les Américains, et ce sont les Américains qui sont effectivement dans le rôle... Sauf à un moment qui est, je trouve, le moment peut-être sublime du film, qui est vers la fin. Alors on peut divulgâcher parce qu'il y a peu de chances que les gens qui nous écoutent le voient, puisque ce film n'est pas sorti.
Il est difficile à trouver. Il y a des moyens, mais on peut. Mais
voilà, dans lesquels nous n'entrerons pas. Mais voilà, il n'est pas disponible ni sur les grandes plateformes américaines, ni en salle.
Mais parce qu'il n'est pas fait pour. C'est pour ça qu'il est intéressant.
Il est à usage interne chinois à 100%. Et dans la dernière scène du film, elle est extraordinaire. C'est que donc on est dans cette retraite de Russie d'une armée américaine qui est pas totalement défaite puisqu'elle arrive à sauver une bonne partie de son contingent, mais qui est défaite moralement et qui sait qu'elle a perdu son objectif qui était de conquérir le Nord. Et d'ailleurs, après ça, elle se retirera au sud du 38e parallèle et elle ne reviendra plus au Nord. Mais dans cette scène, on arrive dans une passe au milieu des montagnes, etc. Et le convoi américain tombe sur un lieu où était préparée une embuscade chinoise. Mais avec le froid, les soldats ont gelé. Et donc, ils sont face à une sorte de sculpture de glace où il y a une rangée de soldats chinois qui sont prêts à tirer, mais qui ont gelé sur place par le grand froid. Et l'officier commandant américain descend de son véhicule, va devant ces hommes qui sont gelés et donc morts, et il salue en disant... un peuple qui est capable de ce dévouement et de cette détermination ne peut pas perdre. Et là, je me dis, mais un Chinois qui voit ce film, la dernière image qui est l'hommage d'un officier américain à la valeur du soldat chinois, mais sort de là gonflé à bloc et prêt à affronter toutes les tempêtes à venir.
D'autant que c'est pas... Enfin, je veux dire, le cinéma américain fait le coup depuis des décennies, quoi. Enfin, je veux dire, on peut dire qu'il modifie un peu l'histoire ici ou là. Dans le fond, pas tellement. Enfin, je veux dire, par exemple, quand il montre l'armée américaine extrêmement raciste, on peut dire que tous les témoignages d'époque montrent que c'est totalement le cas, que les Américains ne font absolument pas la différence entre les Chinois, les Coréens et les Japonais, et qu'ils considèrent que c'est tous des Japonais.
C'est une partie du problème.
Et c'est d'ailleurs vraiment le fond du problème. Mais du coup, ouais, pourquoi pas, quoi. On peut bien nous renvoyer un jour une dose de notre propre médecine, quoi. Enfin, après tout, Hollywood déverse tellement de films très simplistes sur les relations entre les États-Unis et le reste du monde depuis des décennies, qu'un jour ça peut se renverser si on sait le regarder pour ce que c'est pas inintéressant.
Oui, après le cinéma de guerre américain, notamment sur la guerre du Vietnam, avait un regard critique sur cette guerre, que ce soit Apocalypse Now ou autre. On n'est pas dans la glorification et la justification de l'intervention américaine, même si culturellement, il y a une toile de fond qui est qu'on est quand même les plus forts et les plus beaux.
Mais parce qu'il y a la masse, mais ça dépend lesquels. Si vous regardez Pearl Harbor ou même Midway, il y en a plein.
Oui, mais le cinéma chinois n'est pas capable aujourd'hui, dans le contexte politique chinois, de produire un film qui est la moindre distance. Et c'est même pire, parce que lorsque ce film est sorti, il y a un blogueur chinois qui a été arrêté parce qu'il avait émis des critiques ou même simplement poser la question de savoir si cette intervention en Corée était justifiée. Est-ce que c'était une bonne idée de la part de Mao d'être intervenu? Il a été arrêté, il doit être jugé, il n'a toujours pas été jugé, mais il est accusé de subversion pour avoir posé simplement la question de la justification d'une guerre.
Mais dans tous les cas, c'est très intéressant que ces films-là restent donc à usage interne, parce que on peut dire, donc c'est le plus gros succès de tous les temps du cinéma chinois, c'est le plus gros succès de tous les temps d'un film non américain, enfin non anglophone.
Oui, oui, oui.
Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de pérennité à ce truc-là. Ils peuvent continuer à en faire. Je veux dire, aux États-Unis, c'est souvent assez dépendant de l'exportation et de la capacité à exporter les films. Les Chinois peuvent avoir un genre cinématographique complètement en circuit fermé, à pur truc de glorification politique, et ça a l'air totalement viable économiquement.
Ah bah, c'est le premier marché du cinéma mondial, hein, aujourd'hui. Le nombre de salles, d'écrans qui a été décuplé. Il y a eu une modernisation du cinéma. Mais... alors le problème, c'est que la Chine n'a pas assez fait la guerre pour que le filon soit utilisable très longtemps. Je pense qu'ils n'en feront pas sur leur guerre avec le Vietnam en 1979, qui n'a pas vraiment tourné positivement. Et juste un dernier mot sur le film. L'issue de la guerre non plus n'est pas explicitée, parce que je disais tout à l'heure qu'on ne savait pas pourquoi cette guerre avait commencé. Mais cette bataille, elle n'a pas... certes, les Chinois revendiquent une victoire puisqu'ils ont chassé les Américains, mais ils n'ont pas atteint leur objectif qui était de détruire ce corps d'armée américain. Et à tel point que lorsque Peng Dehai est rentré en Chine, il a présenté sa démission à Mao parce qu'il n'avait pas atteint le but. Mao dit, d'ailleurs, je crois que c'est dans le film, dit explicitement écrasez-les, exterminez-les, il faut leur donner une leçon, qu'ils ne reviennent plus. Et ils n'y arrivent pas, puisque malgré tout, les Américains sauvent une bonne partie de leur contingent. Ils ont quelques 4000 morts ou un peu plus. Et d'ailleurs...
Et après, il y a une opération extrêmement spectaculaire. Ils réussissent à évacuer 200 000 personnes qui étaient sur le point d'être vraiment encerclées par les forces chinoises et nord-coréennes. Enfin bon, les Américains s'en sortent très bien quelques semaines plus tard, quoi.
Ce qui est incroyable, parce qu'on l'oublie aussi, mais... cette bataille, elle a encore des conséquences aujourd'hui. Lorsque Trump a rencontré Kim Jong-un à deux reprises, à Singapour et à Hanoï, une partie de la négociation a porté sur le rapatriement des soldats américains enterrés dans ces conditions de gel absolu pendant cette retraite du lac Chongqing. Donc et certains corps ont été rendus par les Nord-Coréens il y a seulement donc 2 ans. Et il y en a encore plusieurs centaines qui sont les missing in action, des soldats qui ont soit disparu, soit dont on sait qu'ils ont été enterrés, mais on n'a jamais pu récupérer le corps. Donc on est encore à solder les comptes de cette bataille qui s'est déroulée en 1950. C'est assez stupéfiant, je dois dire. Et avec aussi, rappelons quand même, parce que tout le monde ne le sait pas, qu'il n'y a jamais eu de traité de paix. Il y a une armistice en 1953. Parce qu'après cette bataille, donc les Américains se replient au sud du 38e parallèle. La guerre continue encore 2 ans, sans réelle avancée, mais elle dure grosso modo jusqu'à la mort de Staline. Et ensuite, on a une armistice et on n'a pas de traité de paix. Et jusqu'à aujourd'hui, techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre. Et les Américains aussi, puisque l'armistice a été signé aussi par les Américains. Donc il y a cette zone soi-disant démilitarisée, qui est en fait la zone la plus militarisée au monde. Moi, je suis allé à Panmunjom, mais c'est un endroit extraordinaire parce que vous avez une baraque minuscule.
C'est là où Trump et Kim se sont rencontrés quand Trump essayait de trouver un traité de paix qu'il n'a pas trouvé.
Oui, et c'est l'endroit où se rencontrent les deux pays pour discuter des problèmes de frontières, de rupture du cessez-le-feu, etc. etc. Et il y a cette cabane qui est vraiment une baraque minable, mais qui est traversée au milieu par une bande jaune, une table au milieu, des micros des deux côtés. On peut venir, des groupes de touristes sont autorisés à rentrer dans cette baraque, jamais en même temps, donc soit du côté nord, soit du côté sud. Et il y a toujours un soldat de l'autre camp qui est en face et les micros qui permettent d'enregistrer ce qui se dit pour qu'aucun propos incitatif ou haineux ne soit prononcé. Il y a une ambiance où on sait que voilà, les gens jouent à approcher de la ligne jaune avec un soldat nord-coréen en face. Il y a une ambiance de guerre froide, de pacotille, et en même temps, on sait que c'est vrai, et que de l'autre côté, il y a la bombe atomique et un régime assez étonnant. Donc, on est 70 ans après cette bataille, et on voit bien que rien n'est réglé dans cette partie du monde.
Merci beaucoup, Pierre Aski.
Merci.
Donc, je rappelle évidemment les références. Donc, la bataille du lac Changjin, qui est sortie l'an dernier. Extrêmement difficile à trouver, puisqu'il n'est pas distribué en VOD. Il est même difficile de se procurer des DVD, si tant est qu'on le puisse. Mais je fais confiance à la sagacité, à la débrouillardise des auditeurs, s'ils veulent voir ce truc, qui est vraiment un film à très gros spectacle. Il faudrait peut-être voir en salle, si c'était possible, parce que ça doit claquer quand même avec la quantité d'explosions et de scènes d'action. Dans tous les cas, avec notamment le fameux Jackie Woo dans le rôle principal. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.